Aujourd'hui, Christian Cayol, dans son émission La Bougeotte, nous fait découvrir la douce vie dans le Val-de-Loire. Bonjour Christian.
Bonjour Francis.
Alors, c'est vrai que la vie est douce dans le Val-de-Loire ?
Oh, certainement, certainement. Les rois avaient choisi cette région. C'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, j'arrive du centre de la France avec des anecdotes, des paysages. Les images, vous les retrouverez comme d'habitude sur ma vidéo qui sert... C'est mon point de repère pour vous parler à cette émission. Mmh. Et quant aux histoires, on va commencer maintenant.
Tu nous rappelles rapidement le site de la vidéo ?
Donc, allez voir ma vidéo qui se trouve sur mon site Rando VTT Vidéo, sur le site radiogalaxie31.com et allez la voir pour vous donner des idées de voyage, de découverte. Et maintenant, c'est le moment de partager mon périple d'une semaine autour d'Amboise.
Où se situe Amboise ?
Amboise, c'est pas compliqué. C'est au bord de la Loire, tout simplement. Mais bon, c'est vrai que par là, vous avez beaucoup, beaucoup de, on va en parler, de sites touristiques, mais qui peuvent être au bord de la Loire, de l'Allier, de l'Indre, du Loir, et j'en oublie certainement. Mais bon, tout est là. C'est pas un fleuve au milieu d'un pays, c'est un pays au milieu d'un fleuve, presque.
D'accord. Voilà, donc tu nous amènes bouger dans ce coin-là.
Exactement. On va commencer par quelque chose qui n'est pas fréquent. À la nuit noire, 2000 vététistes en gilet fluo, équipés avec des LED, des projos, et 2000 petites lumières noires qui s'élancent au bord de la Loire pour traverser justement Amboise, qui est illuminée, au son des musiques et sous les encouragements de la population. On traverse en vélo, tout le peloton traverse le pont et traverse Amboise. Ensuite, on gravit en vélo la tour cavalière. C'est une tour ronde, avec un peu comme pour un parking souterrain. Donc la possibilité de rouler et de monter la tour ronde pour traverser ensuite les châteaux et disparaître dans l'obscurité, dans la campagne. Alors donc, une petite anecdote qui m'est arrivée pendant la randonnée. Donc de nuit, imaginez, au milieu des champs, la seule lumière, c'est ce que j'avais, une petite frontale, et les vélos qui passent autour de moi. Ça va, t'as un problème ? Oui, oui. Mais bon, les gars, personne ne s'arrête. Le problème, c'est que j'avais crevé, donc ça, c'est pas dramatique. J'ai voulu réparer en vissant sur la valve une bombe de réparation qu'on utilise. Et quand j'ai dévissé ma bombe, en même temps, l'air est reparti. Alors, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'avais pas de lunettes et donc j'y voyais sans lunettes rien. Et ma petite loupiote ne me faisait pas grand-chose. En fait, l'obus, ce qu'on appelle l'obus de la valve, c'est-à-dire que la partie qui se revisse, qu'on referme, s'était dévissée et avait été expulsée avec la sous pression. Je ne le trouvais plus. Et à paupe, à tâtonnant, dans l'herbe, j'ai fini par retrouver l'obus que j'ai remis et revissé. Voilà. Et donc, parce que j'étais vraiment là. Et alors, les vélos passent à côté de vous et machinalement, tout le monde vous dit « Ça va, t'as pas de problème ?»« Oui, oui, je disais, si, si, j'ai un problème. » Personne ne s'arrêtait jamais.
L'accueil légendaire des vététistes.
Ah, pour poser la question, tout le monde, « Ça va bien ?» En principe, on répond « Oui, ça va, j'ai tout ce qu'il faut. »
Et là, non.
Là, c'était pas le cas.
Comme quoi, des fois, on n'écoute pas la réponse. On pose la question machinalement.
Chacun fait son trip.
Voilà.
C'est une rando de nuit, donc. Un vrai songe d'une nuit d'été. Alors, cette manifestation se déroule en Amboise. C'était trop tentant de faire un petit jeu de mots tout simple. Paré pour Amboise. Un petit clin d'œil vers Ambroise Paré, le chirurgien anatomiste français du XVIe siècle, dont on retient de lui sa plus grande innovation importante, qui est pour les amputations de ligaturer les artères et de panser les plaies plutôt que de les cauteriser à l'huile bouillante.
Oui, tout à fait, oui.
Et voilà, merci. Voilà, donc ça c'est... Hein. Alors, donc, on est dans le Val de Loire pour découvrir, on ne peut pas y passer à côté, les innombrables châteaux de la Loire. On devrait plutôt dire les châteaux de la Vallée des Rois, parce que le premier château de Loire, c'est un château qui est à Arlande. Puis on trouve ceux de Couzan, des Salois, la Batifurfé. Mais on est dans les départements 43 et 42. Quand on dit château de la Loire, on pense à tous ces châteaux, Villandry, Azay-le-Rideau et tout ça. Alors qu'on n'est pas dans la Loire. La Loire, c'est beaucoup plus haut géographiquement. Voilà. Alors donc tous ces châteaux, pas besoin d'itinéraire. Le point central de ma bougeotte, c'est Villandry. C'est un patrimoine culturel très important. Ville, village historique autour de la Loire. Vous tracez un cercle de 50 km de rayon autour de Villandry, pas besoin de chercher bien loin. Tout est à portée, tout est rassemblé au bord des principales rivières, comme je disais tout à l'heure, l'Indre, la Vienne, la Loire et le Loir. Allez comme bon vous semble, de jardin en château, en particulier en Troglou, parce qu'il n'en manque pas de ça non plus.
Et tout style de château, je présume ?
Non, ce sont des châteaux, surtout des châteaux Renaissance, essentiellement. Quelques autres plus anciens, médiévaux, mais essentiellement, moi, j'ai surtout allé voir les châteaux traditionnels que l'on va voir par là. Quoi, hein. Alors, côté jardin, il n'en manque pas non plus. Tous les châteaux ont des jardins autour. Je vais vous parler de quelques-uns en particulier, notamment celui du château de Chaumont, parce qu'il y a un festival de renommée mondiale. Des créateurs viennent du monde entier pour y proposer des scènes assez bizarroïdes, qui parfois décontenancent. Et c'est un grand moment pour ceux qui aiment les jardins et bousculer l'ordinaire. Bon, moi, je dois dire, personnellement, ça m'a laissé assez pantois. Bon, bah, chacun son truc. Alors, d'innombrables châteaux, d'innombrables jardins. La seule chose que je vous dirais, tous ces châteaux et jardins, essayez d'y aller de bonne heure si possible, parce qu'après 11h, l'état de grâce est fini, c'est un flot ininterrompu de touristes, et vous ne pouvez pas en profiter complètement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des châteaux, parce que, bon, ça, c'est le Rideau, Chenonceau qu'on ne présente plus, le château de Villandry, surtout ces massifs de buis et de légumes, c'est un jardin, et beaucoup de légumes, c'est assez original, mais ils sont agencés avec beaucoup de sens artistique. Le château d'Ussé, qui possède quelques beaux meubles d'époque, il a surtout une tour qui a inspiré le conte de fées de la Belle au bois dormant. Voilà ce que je peux en retenir. Par contre, moi je vous conseille la forteresse de Chinon, parce qu'il y a une histoire qui m'a plu, c'est l'épisode des Templiers, qui ont été emprisonnés sous l'ordre de Philippe IV le Bel, ainsi que le dernier maître des Templiers, Jacques de Molay, qui a été arrêté et qui est mort 5 ou 6 ans ou 7 ans plus tard, en 1314, sur un bûcher. Alors, après 7 siècles, les Templiers restent dans l'imaginaire public quelque chose d'encore intact, qu'il y a un pouvoir d'attraction et une popularité qui reste depuis 7 siècles par rapport aux Templiers. Voilà pourquoi l'histoire est intéressante. Et puis, la forteresse de Chinon, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi l'entrevue célèbre entre Charles VII et Jeanne d'Arc. Voilà, un petit rappel de l'histoire, c'est donc à la mort du roi Charles VI le Fou, en 1422, sa veuve Isabeau de Bavière, qui a reconnu comme roi de France, non pas son fils aîné, donc qui deviendra Charles VII plus tard, Charles, mais le fils de sa propre fille, Catherine, qui a épousé le roi d'Angleterre, Henri V. Donc on se retrouve à la mort du roi avec deux prétendants au trône de France, mais comme Isabeau de Bavière avait signé le traité de Troyes qui reconnaissait le fils du roi d'Angleterre comme prétendant au trône de France, on était dans une situation pas très bonne. Alors le futur roi d'Angleterre règne sur la région parisienne et le nord, alors que Charles VII, qui n'est pas encore roi, va régner plutôt sur le centre et le sud. Et il n'a ni argent ni beaucoup de soutien, et la France c'est une mosaïque de territoires, les uns soumis aux Anglais, les autres bourguignons, plus quelques territoires aussi des provinces périphériques, qui sont encore des terres d'empire. Bon. Et une légende ne dit-elle pas que la France, perdue par une femme, entre parenthèses, la reine Isabeau de Bavière, sera également sauvée par une autre femme, qui sera Jeanne d'Arc. À l'époque, il est vrai, il y avait pas mal de légendes et de faux prophètes. Le souverain, qui espérait conserver sa couronne face à l'offensive des Anglais, il n'attendait plus qu'un miracle, et ce fut Jeanne d'Arc. Voilà pour la petite histoire. Un mot aussi sur le château royal d'Amboise. J'en parle parce qu'on l'a traversé en vélo de nuit, donc voilà. Et puis j'ai passé quelques jours, je l'ai visité. Ça a été la demeure des rois de France à partir de 1434, en particulier avec Louis XI, Charles VIII et François Ier.
D'accord.
À Amboise, tout proche du château royal, le Clos Lucé. Le Clos Lucé, c'est le petit bijou d'Amboise. Et ce fut la dernière demeure de Léonard de Vinci. Paraît-il qu'un souterrain permettait à François Ier de se rendre voir Léonard de Vinci, donc discrètement. Au Clos Lucé, il y a tellement à voir que c'est l'occasion de découvrir les mille et une inventions de Léonard de Vinci. Beaucoup de ces inventions sont refaites en petits modèles réduits. Alors, on ne peut pas les citer toutes, hein, mais quelques-unes. Machines volantes, bicyclettes, machines pour les textiles, roulement à billes, vis sans fin, des pompes mobiles, des roues à aubes, des grues, des ascenseurs, anémomètres, canons, mitraillettes, chars d'assaut. Tu te rends compte?
C'est énorme. C'est
énorme. Et nous lui devons aussi une multitude de travaux qui ont conduit à des centaines d'outils, d'engins et de connaissances et de théoriques. Sans parler de ses recherches en géologie, météorologie, anatomie et ses qualités de botaniste, sculpteur, musicien, poète, philosophe, écrivain. Ceux qui ne connaissent de lui que la Joconde ne voient qu'une toute partie, petite partie de l'iceberg.
Ah mais c'est clair.
Et il n'a pas fini de nous surprendre encore, je pense. Alors, un trait d'union à toute cette région, c'est le tuffeau.
Alors, explique-nous ce que c'est le tuffeau. Blanc, bien sûr.
Blanc ou crème.
Ah.
Voilà. Le tuffeau, tout simplement, c'est de la craie, c'est du calcaire. À grain fin, par contre. Hein. Il a servi de matériau de construction à toutes ces belles demeures.
Donc il y a des carrières, il y a pas mal de carrières, je présume.
Des carrières, oui. Des carrières, mais ce ne sont pas des carrières à ciel ouvert, parce que souvent, c'était creusé de plein pied, quoi, je peux dire. D'abord, ils taillaient des grosses dalles, et ensuite, ils en faisaient plus ou moins à la demande, à différentes dimensions. Tous les déchets de la taille étaient transformés en chaux, puis en mortier. Rien ne se perdait. Et souvent, les carriers, ils vivaient dans ces carrières, mais c'était devenu ce qu'on a, les habitations troglodytes.
Voilà, d'accord.
Ils habitaient là-dedans. Et c'est une activité qui apportait un complément, surtout aux paysans, un complément de revenus. À cette époque, on a compté à peu près un habitant sur deux travailler à creuser, à tirer des blocs, et à creuser des dizaines, voire des centaines de galeries. À cette époque, sur la Loire, sur de nombreux villages, se sont formés des ports. Et les gabarres transportés à fond de cale, ça faisait vivre des bateliers qui sillonnaient la Loire et les affluents. Et il faut bien se rendre compte que tout ce qui a été construit en surface vient du sous-sol.
Du sous-sol.
Donc,
ouais.
Il y a autant de creux que de plaines dehors.
Un vrai gruyère, en fait.
Un gruyère. Ah ouais. Oui, oui. Certaines carrières sont actuellement devenues champignonnières ou caves pour le vin. Vin de Loire.
Oui, il est réputé, ouais.
Voilà.
Tu disais qu'ils transportaient ce gabarit.
Le bateau à fond plat.
Voilà. Et ils transportaient ça très loin ou ça se. Juste au voisinage?
Alors. Vers l'amont, la Loire était navigable une grande partie, les gabarres remontaient jusqu'à Roanne. Alors, je ne peux pas te dire où est Roanne, mais il suffit de regarder une carte. Ouais. Ça fait du chemin. À la descente, c'était surtout donc, le tuffeau, et les vins, les étoffes, la chaux, du bois, du charbon, et le sel à la remontée.
Okay.
Et comme les vents dominants venaient de l'ouest, les bateaux remontaient à la voile pratiquement jusqu'à Orléans. Ils étaient très peu tractés, très peu allés. Sur le bord.
Ouais. Ah, voilà. D'accord.
Et cette activité qui était très florissante au 18e a été supplantée par le chemin de fer au 19e qui a divisé par 3 les frais de transport. Par contre, ce moyen, ça a commencé à partir du 12e siècle, l'extraction du tuffeau. Et donc on va parler maintenant un petit peu des sites troglos.
Oui.
Par exemple, il y a le village de Trot, c'est un site incontournable. Il y a des constructions qui datent de l'époque médiévale. Certains étaient encore habités il y a très peu de temps. Elles sont actuellement, certaines, transformées en gîtes. Mmh. Et vous avez la possibilité, à Trot, par exemple, de visiter un intérieur du 19e. Alors, vous avez aussi le village de Souzé. Alors, lui, il y a carrément un château troglodyte et une quantité de réseaux et de galeries, en particulier la rue du Commerce, entièrement souterraine, qui était jusqu'à la fin du 19e siècle, bordé des shops et d'habitats. Il y a le GR qui passe dedans, c'est assez...
Ouais, c'est original,
assez original. Ouais. Voilà. Et puis, vous avez aussi le village des Goupillères. Alors là, c'est à côté de d'Azay-le-Rideau. Là, vous replongez dans la vie des paysans, qui, au fur et à mesure des besoins, creusaient la pierre pour l'extraire et la revendre, et en même temps, agrandir leur habitation. Mais vous retombez là au 19e siècle, tel quel. Et puis, là c'est un petit peu moins couru, mais c'est assez original aussi. Un pigeonnier troglo, c'est-à-dire que vous descendez un escalier pour arriver au pied du pigeonnier. Donc c'est un puits, 7 ou 8 mètres de diamètre, donc vertical, et la hauteur d'un pigeonnier, peut-être une dizaine de mètres. Et quand vous êtes en bas, vous avez tous les nids des pigeons, peut-être un millier de nids de pigeons. Et tout ça chapeauté par un toit à deux pentes pour que les pigeons puissent avoir un accès, une sortie. Donc, c'est original aussi ça.
Ah ouais, c'est rare, ouais. C'est très rare ça aussi. Ouais.
Pigeonnier troglodyte. Et enfin, vous avez le village de Rochemeunier. dès le Moyen-Âge, les paysans, au lieu de construire des maisons, ont commencé à faire un trou énorme, qu'ils ont dû agrandir au fur et à mesure des besoins. Puis, ils ont creusé les habitations, les dépendances, tout ça dans le même site. En une photo, vous prenez l'ensemble, mais vous n'avez vu que la partie que l'on voit. C'est-à-dire que vous ne voyez pas l'hectare de galerie et la vingtaine de salles qui communiquent derrière. Là, vous payez et vous allez voir.
D'accord. Ouais, c'est énorme, c'est vraiment un lieu au niveau troglodyte qui est important en France.
Oui, vous en avez partout. Hein. Ouais. En bord de toutes les rivières, vous avez de ça. Oui, de nombreux à voir. Oui. Ouais. Alors, dans tout autre domaine, vous avez le cadre noir de Saumur qui est juste à côté. N'hésitez pas à y aller. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la présence du maître écuyer qui était venu monter sur le grand manège, un de ses chevaux, particulièrement vif. Donc, j'ai assisté à sa séance. Ouais. Ça. C'est à voir aussi.
D'accord.
Ça fait partie de notre patrimoine. Ouais. Alors, dans un autre domaine, vous avez à Couture-sur-Loire la maison natale de Pierre de Ronsard, le prince des poètes ou le poète des princes, comme on dit, son manoir, qui est du 15e, avec des communs troglodytiques, ornés de sentences et des sculptures Renaissance. Et puis aussi, un jardin de roses anciennes. Ça nous rappelle... Nos cours de troisième, ça, Ronsard. Oh là 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 là.
Ça nous rajeunit pas, on va dire.
Oui, ça nous rajeunit pas, mais enfin, bon, qu'est-ce que c'était barbant. Tu te souviens, quand nous serons bien vieilles au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, dirai, mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrer du temps que j'étais belle. Bon, allez, c'est beau, on se casse.
T'as gardé une bonne mémoire.
Non, je l'ai sous les yeux. Mais non, mais on était trop
jeune,
assez mature pour étudier ce...
Trop jeune, hein.
Voilà, trop jeune. Bon, maintenant, un sonnet à la limite, mais bon, plus non plus. Alors, avant de terminer, d'autres idées. Pour les lève-tôt et les amateurs de photos, profitez des petits matins.
Pourquoi ?
Parce que souvent, vous avez les bords de rivière enveloppés de brume énigmatique. Donc là, il faut se lever, il faut avoir le courage... pour arriver à faire cette brume-là qui s'évapore au-dessus de l'eau.
Plus ça, les levées de soleil doivent être sympas dessus.
Ah oui, bien
aussi.
Sûr. Ouais. Ah oui. Donc ça. Et puis pour les contemplatifs, alors là, laissez-vous porter au gré du vent avec les nombreux baptêmes de Montgolfière. Ouais. Il y en a partout, vous en trouverez partout. Voilà. Et dernière chose avant de terminer, des mégalithes, on en parlait une des dernières émissions. Alors là, vous allez en trouver aussi un peu démesurés. Dans leur poids, dans leur dimension, par exemple, le dolmen de la Madeleine, il fait 80 mètres carrés.
Ouf.
Le dolmen de la Grotte aux Fées, à Métré, lui, il fait presque 90 tonnes. Puis vous avez le dolmen de la Barjoulière. Tout ça, c'est des mégalithes qui sont du 4e ou 5e millénaire avant Jésus-Christ. Et voilà, pour terminer, c'est vrai qu'on en parlait en début, la vie... Elle est douce au Val-de-Loire. Nos rois, ils s'y étaient pas trompés en érigeant cette région comme cœur de France. Leur résidence raffinée, le tuffeau blanc omniprésent, le fleuve paisible, ça en fait un écrin, et puis le bon vin, ça en fait un écrin charmant, notamment pour cette manifestation nocturne, la rando de la légendaire Nuit des Rois, dont j'ai parlé en début. Voici au terme de l'émission. J'espère que mon récit vous aura donné envie d'aller voir mes images. Rando, VTT vidéo, et puis sur le site Radio Galaxy 31, rubrique découverte, évasion.
Voilà.
Au contraire.
Ouais, mais ça, vous trouverez. Si vous avez la bougeotte, vous trouverez.
Voilà. Donc, allez dans ce Val des Rois. Sans bouger, allez découvrir mes images. Et puis, si vous les appréciez, n'hésitez pas à les partager. La prochaine fois, à quelques kilomètres d'ici, l'Ariège, vous connaissez, bien sûr.
Mais l'Ariège insolite, est-ce qu'on la connaît réellement ?
Pas si sûr.
Voilà.
En attendant, je vous dis bougez, mais bougez en France. Il y a tant à voir. À bientôt.
Merci Christian.
Merci Francis.